Jet FM. C'est la fortune russe. Elle nous chouette. 21h30. La musique d'un temps reflète et est le reflet d'une société. Pour évoluer dans la société, il faut une musique changeante, en mouvement. Des superpositions sonores ont formé l'histoire qui enregistre la musique pour ne pas oublier des implants, des détails importants ou non de l'histoire. Le texte qui va suivre, Poste 113, se situe dans le même univers que mon texte Dundee Cock diffusé dans mes quotidiennes Barge Russe, déposé en podcast dans l'émission The Russian Fortune. Poste 113 s'étend dans un écart de temps plus large et ajoute davantage de précision. Poste 113. En 2092. Sa chambre est passante. Pourtant, il ne connaît personne. Il est sur sa chaise à bascule, au regard, scrutant ses réflexions d'autrefois. Dans tout ce monde qui traverse sa chambre, la caravane va bientôt arriver. Cette fois, il préfère se lever. Son jardin est tout en longueur, un petit potager au début de l'allée. On peut le voir depuis la fenêtre où est son fauteuil. Entre les pieds de tomates, on entend un son électrique, étouffé. Hector s'écrase sur le sol. Le futur électrique grésille entre ses tympans. Hector se dégage du présent. Il ne connaît personne, mais cette fois, il voit tout le monde. Sans ses chaussures, la lumière laissée allumée dans sa chambre, il n'a pas envie d'y retourner. Elle a toujours été vide, peuplée de ses souvenirs, alors qu'ici, étendu dans son jardin, il rencontre sa solitude et toutes les rencontres qu'elle a engendrées. Le lieu où il se trouve n'existe pas. C'est pourtant comme s'il l'avait toujours connu. Comme un chasseur qui cherche une proie, comme un chercheur qui cherche une ombre. Un perdu, le Nord, trouvé un maître par magnétisme. Ça fait combien de temps qu'il est couché sur le sol? Combien de temps qu'il circule comme un têtard qui veut donner la vie? Le corps d'Hector est à 6 pieds sous terre, dans un état de décomposition avancée. À la surface, il y a des choix à faire, avec le temps qui est toujours là. Le cimetière est aussi vide que sa chambre. Une famille est réunie autour d'une tombe, pose quelques fleurs, discute. Celui qu'on appelait Hector, qui a passé ses derniers moments à se remémorer ses actes pour connaître sa volonté de savoir, qu'il reste sur le fil, existe par endroits, sur le réel de la planète et par sa présence au-delà. Dans ses mouvements, il est le flux absorbé. Avant de trouver Hector, il était un enfant, muet, qui analysait tout. Il dut le quitter, émotionnellement trop fragile et voleur, sans le souci de pouvoir trouver quelqu'un d'autre, malgré les différences entre les êtres devenant de plus en plus communes. Il est un esprit, lui-même dirigé par d'autres. Entre eux, ils appartiennent tous à eux. Leur présence magnétique crée les existences et surtout leurs agencements. La valeur personnelle et des points de vue se développent par la suite. L'esprit qui était l'autre, qui s'appelait Hector, trouve la vie dans le cocon d'une mère porteuse en série de la firme Madeus dans une Candy 8. Il est encore à l'état embryonnaire. Il n'appartient pas totalement à la firme, du moins que son aspect physique, ainsi que toutes les données qui lui sont introduites à travers les circuits de sa mère Candy 8. Lorsqu'il atteindra la réalité après une gestation de 63 mois, il sera en mesure de parler et de connaître les langues usuelles préprogrammées, différents théorèmes ainsi que leurs applications. Son identification, RP-7.1, le définira dans 2 jours. Les premiers modèles RP dysfonctionnait par un mauvais équilibrage des flux. Les séries 3 à 5 avaient trop de connaissances, d'où l'apparition de schizophrénie déjantée. La série 6 a ensuite retiré les fibres humaines cérébrales connectées à l'autre monde, ce qui plaçait leur sensibilité dans un état de mort vivante. La série RP7 accède à l'autre monde. Un son de compression électrique étreint le RP7.1. C'est l'esprit d'Hector qui s'y installe. 5 ans et 3 mois. Des sages-femmes cyborgs N2W de la firme Madeus installent RP7.1 dans une couveuse. En 2060, la société Madeus a révolutionné le mode de production humain. Les cités, les métropoles, enfermaient les peuples. Une poignée de points géographiques par continent retenait les populations de l'aridité, des sols asséchés de bactéries, de microbes, de verdure, taries sur une terre de pierre. La procréation sexuelle était le mal et ravageait les matériaux et denrées primordiales. Les sociétés se trouvaient recluses. Les comestibles biofamines entretenaient la sous-vie humaine. En 2057, la firme Madeus a révolutionné le monde. Elle a fusionné avec SpaceX. Et la conception de l'existence s'est métamorphosée. En 18 mois, ils ont colonisé une planète sans oxygène, ni stratosphère, avec vue sur l'espace, où des logements d'habitation, en plus de cellules de recherche, se sont installés. Les correspondances et communications, intenses au début, se sont raréfiées, au point que Madeus Corporation invente une nouvelle façon de dialoguer pour l'adaptation humaine à une atmosphère extérieure. Cette planète ne possédait pas de champ magnétique pour se repérer dans le temps et l'espace. Le processeur AHUA de flux télépathique facilitait les échanges et l'humanité en général. 6 mois plus tard, en 2060, Madeus lance une nouvelle façon de faire les humanoïdes, par télépathie sensorielle. Le AHUA.EX. Les fantasmes des hommes étaient à prendre en compte, pour ne pas que la population décuple et ne s'engouffre une nouvelle fois dans les coins et recoins de la nouvelle colonie. Des patchs filtres de stérilité vinrent s'adjoindre donc au kit de respiration sur la planète LAVA colonisée. Hommes et femmes, en plus de n'avoir d'appel du Nord, sur cette planète. Car pas de magnétisme, de perdre l'usage de la communication était soustraint à ne plus recevoir aucun appel de domination. Une extinction libidineuse rendue à ce troupeau de colons. Malgré de nouveaux arrivants de la Terre, le programme de la société Madeus planifiait la création d'humanoïdes adaptés à vivre sans oxygène pour ainsi envahir LAVA. Les laboratoires sur LAVA récoltèrent des ADN les plus en capacité de suivre les prérogatives Madeus pour la conception d'une femme humanoïde modifiée, nommée Candy. En ce qui concerne les semences masculines, celles des surhommes et des faibles avaient très souvent des défaillances. Pour obtenir la part de l'autre monde désirée pour l'humanoïde RP7, il s'exécuta alors un cosmopolitanisme de hasard, un agencement d'État. Candy 8 fut choisi par un coup de dé. Les semences masculines pour relier les gènes. Physique du premier colon envahisseur de la planète LAVA. Le RP7.1, celui-ci reçut un esprit, celui de feu Hector. En 3012, RP7.1 a 20 barres de durée. Le temps est essentiellement artificiel, unidimensionnellement individuel. Les missions de RP7.1 sur LAVA, avec différents modèles de respiration, approfondissent les bases de données des labos Madeus Corporation. À 17 bars, lors d'une sortie géologique, RP7.1 reçut une prémonition, la présence d'un fossé, dans lequel tout l'équipement de la mission et des travailleurs RP11 allait périr. Depuis la base de contrôle d'où les laborantins décideurs dirigent la colonie, un flash hologramme les prévint de cette clairvoyance. Le RP7.1, seul modèle de la série 7, avait un accès à l'instinct. L'étude de ses rêves est devenue alors une priorité. L'élaboration d'un passage pour rejoindre l'autre monde. La vente de l'immortalité pour la firme Madeus, que l'esprit humain subsiste dans le temps. Labyrinthe de la réalité devenant puzzle de l'invisible allait prolonger son contrôle de la vie des deux côtés du monde. Poste 113. La suite de suivre. 3012. La planète Terre ne possède plus de nature. Ces derniers hommes vivent dans des refuges de mégacités, se nourrissent d'aliments synthétiques biofamines. L'artificiel domine chacun des seuils d'énergie nucléaire. Des automates fourmillent dans les foyers collectifs et privés. L'humanité terrestre n'a plus de raison de connaître un meilleur lendemain, tandis que sur LAVA, sans magnétisme planétaire, les raisons d'un futur sublime, soit sans horizon, sans encouragement. Il ne respire plus. Il est couché sur des plants de tomates de son jardin, sur le sol de LAVA. Il ouvre les yeux, analyse un poisson hors de son aquarium. Un mollusque dans l'eau salée qui évolue au rythme des battements d'un cœur. RP-7.1 prend une vaste respiration. Les laborantins décideurs engendrent une nouvelle révolution. Retirer le cœur des êtres vivants pour des piles cyber-électropucées. Madeus avait stoppé développement cybernétique par crainte d'une perte totale de contrôle et de maîtrise. Par ce rêve, la mise en fonction d'un être humain, colon, qui ne respire pas, inspire au laborantin décideur la façon dont le temps agit dans l'autre monde, qui souffle souvenir et aspire déjà vu. C'est-à-dire que le passage dans le monde invisible souffle et aspire la recherche du temps perdu des existences. Le passage dans le monde invisible est dans la sensibilité de l'être humain. Madeus Corporation efface l'accès à l'autre côté de l'être humain pour investir une nouvelle planète. La firme s'est emparée des révolutions, des lendemains de la Terre, des espérances, même de celui qui croit mourir, de celui qui veut, de celui qui va, de celui qui meurt. Le capital nécrophile est réel, et plus loin que les étoiles, choisi sur quelle âme, l'esprit doit tomber pour se réincarner. À cet âge d'individualisme, le meilleur camarade oublié est soi-même, qui accède à l'autre monde s'il se dégage des objectifs matériels. Hector est mort à 113 ans, en 2092. Il est à présent dans les pieds de RP-7.1. L'existence du temps réside en lui, en eux les esprits qui s'appartiennent. La modernité effaçait les esprits jusqu'à devenir passive. Puis un mot, inadapté. Pour le haut modernisme, assemblé par quelques laborantins décideurs, appartenant toujours aux mêmes familles de l'histoire, mais à présent sont sans identité, sans matricule. Ils contrôlent les esprits, maîtrisent le cosmos, et accède à la mort. Les objets ne mangent pas. Les esprits prennent vie en objets qui ne parlent pas, qui ne se reproduisent pas, ne tombent pas malades. S'ils se cassent, sont mis dans un hangar pour l'éternité. L'accès à la mort n'est plus utile. Le haut modernisme a tout. S'ennuie. Comme la fin d'un cycle, ou les dernières semaines d'une maladie déguisée en nœud de complot étendard de la normalité. Les esprits sont maintenant inactifs. Un paroxysme du nihilisme. Personne transformée en objet individu. Sans réflexion possible et dans la passivité.
Poste 113, le système. Alors que l'art se fit ligaturer à la fin du XXe siècle, afin de privilégier le conformisme, les atmosphères et singularités des lieux, singularités des temps, des personnes, mutèrent des couleurs de l'arc-en-ciel au monochrome. Puis maintenant, le chaos exécuté en 3331, dans le noir protoplasmique d'une renaissance. Les laborantins décideurs du haut modernisme ont mis en danger la croyance, se focalisant sur la raison et transmettant le mimétisme, surtout en instaurant un système cognitif unique, sans concurrent possible. La séparation spatiale entre l'Ava et la Terre leur permirent de tromper l'appréciation de la réalité des gènes humains, soit du fonctionnement de la vie sociale. Les valeurs économiques se sont détachées des mécanismes de l'échange. Le marché de ces acteurs a, au cours du troisième millénaire, débutait à se figer. Seul le haut modernisme détenait la réalité et ses raisons. Les autres esprits, toujours réincarnés en esclaves, augmentés, devaient les servir pour leur avoir donné la vie, devant accepter le système cognitif de croyance unique. Lors de l'apparition des derniers rebelles, le haut modernisme anticipait le démenti du réel et prenait davantage de pouvoir, de contrôle sur la délivrance de son système imposé. La circulation de leurs forces productives a cessé dans leur jeu de réincarnation et les valeurs d'échange, le marché, l'individualisme, a éteint la dernière humanité en gardant la vie pour recommencer. La vraie poésie, la tienne, est dangereuse, surtout quand tu la vis. Lorsque transposée l'envergure que prennent les signes, sur, dans la réalité, s'empare des gens pour les posséder. Les illuminations illustrent l'invisible, écourtent la réalité. Le marché des vies, de la vie, a mis fin aux existences en contrôlant leur début et leur fin. La salive, devenue bile, puis le chaos intrinsèque, la réalité, la mort. L'harmonie complètement déséquilibrée, pourtant ici. Dans les voitures du tram, entre les publics, aux âmes écrasées d'art conditionné et d'illumination, formaté. Il ne suffit plus de jouer la comédie. Il ne suffit plus de jouer la comédie pour communier avec les opprimés. Ceux qui ne se posent pas de questions et qui ne l'ont peut-être jamais su. Même eux n'ont plus à la jouer entre eux. La raison les a retirés de la scène, certains dès leur naissance. Les esprits, lors de leur venue, se reposent avec l'âme de certains êtres et en animent une poignée d'autres. Tous s'appartiennent entre eux. Tous le savent et se referment dans une personne qui, malgré eux, devenue un individu, devient la masse d'un collectivisme sans illusion, occulte du système de l'économie, à une voix, sans bien ni mal politique, dans une neutralité religieuse, pour des privilèges de pouvoir. Les esprits du haut modernisme ne s'appartiennent plus entre eux. Ils sont esclaves les uns des autres. Maintenant que l'humanité s'est coupée de ses esprits, de ses personnalités pour devenir des meubles ou des objets, elle se tient debout comme une statue acéphale qui n'a jamais eu de tête, avec une histoire qu'elle a bâtie
mais qu'elle a déformé. L'humanité fausse la signification des événements qu'elle raconte et produit. L'entreprise historique est un jeu de mise, avec des cartes politiques, d'arrangements, de croyances, de pouvoirs, d'argent, etc. Où la construction de la partie, depuis sa genèse, élabore à l'infini par les causes des états actuels du présent. Alors que la mort envahit de plus en plus les pensées dans le temps, qui se fait construire avec le moins de mouvements possible, la Renaissance pourrait bien être la continuité des esprits lorsqu'ils retrouvent pleine liberté. La réalité est démunie de sa multiplicité, ce qui rend le côté invisible hors de portée de la compréhension. Le soi est hors d'usage dans sa totalité. La forme physique de la réalité restreint le spirituel et tout son autre côté du monde. Madeus Corporation l'a rendu nuisible pour son avarice, pour son évolution, son contrôle, son pouvoir. L'histoire s'est vue déformée pour l'accès au contrôle de l'humanité. La raison des sciences fonde la vérité et acidifie les hypothèses, empoisonne ce qui s'en approche. Croire Madeus et les causes de son histoire, Madeus a fait de ses peuples des croyants en son système cognitif, des croyants en les causes de son histoire. De l'histoire qu'elle a créée. En 2622, les critiques historiques disparaissaient pour les insurrections qu'ils provoquaient, notamment sur les mégacités du pôle arctique, où des rebelles remplacèrent les icebergs de décoration par des torpilles du XXe siècle, datées de 1912. Madeus ne prit pas la décision de détruire les liseuses, mais nota cet événement comme une manifestation d'historiens désœuvrés en quête de reconnaissance, d'une satisfaction à leur travail. Les historiens avaient développé l'anticipation des projets de Madeus pour leur contrôle de l'humanité. Poste 113, deuxième partie. Les souvenirs du monde humain tapissent l'imagination où circulent les imaginaires. Du côté invisible, les rêves fourmillent et prévoient des futurs, des cycles répétant l'avenir. Madeus manipule les couloirs des rêves humains pour les contrôler dans la réalité. Or, l'avantage qu'ont encore les derniers humains historiens rebelles se situe bien dans l'avenir qui n'a encore jamais été imaginé. Les rêves, les souvenirs, font les souhaits de l'humanité, qui ne peuvent se produire ou décycleraient la mécanique bien huilée du temps. Madeus ne contrôle pas encore les secondes, mais dispose tous ses plans en la convenance de la durée et de ses mouvements. L'accès à l'immatériel du côté invisible est conçu de futur, où se balaie chacun des passés, chacune des mémoires et de ses constructions de souvenirs. La réalisation des souhaits avait un but de justice par l'intervention d'un acte de la réalité ou d'une conjonction immatérielle de l'invisible. Madeus pensait, indépendant l'un de l'autre, les deux côtés du chaos et des lumières, s'équilibrant par un équilibre de couleurs, mais qui pourtant anéantissait le monde. Le mimétisme, installé dans les coutumes humaines, que le corps se conditionne à celui de l'autre, selon des modèles imposés, afin d'écarter socialement sa personnalité et de l'individualiser, que la masse incorpore les cycles dans un tout unique, que le cercle devienne une ligne. Avant la création de Madeus, une archéologue avait trouvé le chaos harmonique défini par l'équilibre. Le chaos est l'histoire et sa cause, la raison. L'histoire occidentale déforme le temps pour contrôler la faiblesse. Madeus désharmonise l'humanité. L'archéologue en question, petite fille de Monsieur Spector, grand propriétaire foncier qui décida de construire une ville souterraine avant la nouvelle ère glaciaire. Monsieur Catel Spector, dans sa large bibliothèque de recherche, entreposa des feuilles, des documents de civilisations pionnières dans ses livres et reliures. À sa mort, alors que ses deux fils acceptaient chacun l'héritage qu'il leur légua, la fille de l'un, âgée alors de 12 ans, pénétra dans la bibliothèque, prit un livre au hasard dans une étagère de bois. Plongée dans sa lecture, elle entendit la voix de son père. « Viens chérie, on y va !» Elle rangea le livre là où elle le prit, en gardant une feuille où était inscrit « Le chaos de l'histoire et sa cause, la raison ». Au-dessous de cette phrase manuscrite était inscrit « Sur la dalle du souterrain, le 18 juin 2091, K.S. Catel Sanquer était âgé de 112 ans. » Et ces deux garçons allaient alors devenir actionnaires exécutifs de la firme Madeus. 21 ans plus tard, l'archéologue Candy Spector avait développé toute une thèse sur la phrase manuscrite de laquelle s'exprimaient des perspectives, des principes de raison et leur puissance. À comprendre que chaque chose en découlait d'une autre. Déjà, deux siècles plus tôt, à l'époque du modernisme, l'appel à fournir des raisons démystifiait le côté invisible, qui, en plein post-modernisme, décupla le besoin de donner une raison pour obtenir l'illusion de comprendre, par, pour la science, dans l'ère de l'apparence et de la raison. L'existence de l'homme, marquée par l'atome, a balayé sa croyance en soi, dépressurisé l'éducation, dans une métamorphose de la culture en une information. L'histoire a ses raisons. Or, les raisons déformées qui font l'histoire de Madeus font errer la dernière humanité comme des sourds et des aveugles, qu'elle ne croit plus en soi ni en l'autre. La raison anéantit la croyance par ses machines à penser fondées sur l'illusion qui détermine le mode de pensée Madeus. Troisième guerre mondiale se fonde sur l'ordre établi. Or, pour le contrôle de la consommation et l'aliénation de la civilisation, Madeus a choisi de tenir en laisse la crainte des civilisations d'une guerre mondiale, qui ne s'est malgré tout jamais réellement terminée, jusqu'à la fin du second millénaire. Le bien et le mal, devenus illusions du passé, dans l'ère Madeus, sur une ligne sans les interruptions des révolutions cycliques et ses crises financières. La civilisation Madeus est tarie de conscience, l'opposé extrême depuis la naissance de l'humanité jusqu'aux années 2900, lorsque le mouvement s'éteignit. La réincarnation des esprits s'exécutait sans suite, sans calcul, sans plan, sans maîtrise, ou plutôt l'aboutissement du besoin de consommer, effacer, le contrôle de l'autre oublié, le conditionnement gommé. La transcendance inconsciente menée par l'hébétude. Domestiqué par Madeus, interagissant avec l'autre en lui reniflant les fesses et faisant sa toilette. Philippe K. Dick se demandait « Qu'est-ce que les auteurs de SF peuvent bien avoir qui déplaît tant à l'ordre établi et aux petits criminels ?» Édité après sa mort, 4 ans après sa mort, dans « La fille aux cheveux noirs », qui sont des correspondances avec qu'il a entretenues épistolaires. Elon Musk vit un roman de science-fiction, cyberpunk même. Il aura fait contribuer à transformer l'espace autour de la Terre en zone commercialisable, y compris dans l'orbite terrestre. Avec Starlink et sa constellation de satellites de télécommunications, il pourra se vanter d'avoir laissé une trace. Pour le bien de l'humanité, comme il le prétend, à condition que l'utopie hyper-technologique ne tourne pas en dystopie. Vivre sans musique serait une erreur, disait Nietzsche. Pas besoin d'avoir des milliards de dollars pour vivre et voyager. La musique peut servir.
Thank you. Thank you. Thank you. Jet FM.
C'est la fortune russe.
Et nous chouette.